Vous écoutez, on lit pour vous.
Investir en prévention pour la prise en charge des troubles du comportement. Un texte de Charlotte Hendricks, Geneviève Thibault, Marjolaine Tapin et Carolina Bottary, paru le 12 juillet 2025 dans Le Devoir. Le 7 juin dernier, des collègues psychiatres ont publié dans Le Devoir un article soulignant la nécessité de tenir des états généraux pour mieux accompagner les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et présentant des troubles du comportement. Ils insistent sur l'importance d'adapter les services en passant d'un modèle centré sur des épisodes de soins ponctuels à un continuum de services à long terme. Le manque de ressources pour la prise en charge des troubles du comportement, souligné dans cet article, est en effet criant au Québec. Il touche également de nombreuses personnes vivant avec les séquelles à long terme d'un traumatisme crânio-cérébral, TCC, de modéré à grave, qui présente des besoins psychosociaux complexes. Ces troubles du comportement, qui vont de la simple insulte envers autrui à l'agression physique nécessitant des contentions chimiques ou physiques, entraîne souvent l'épuisement du réseau familial et social de l'individu. Ce réseau, souvent le dernier rempart, lorsque la personne n'est plus suivie dans le système de santé, devient alors crucial pour prévenir une situation précaire et accompagner la personne dans sa vie quotidienne où elle compose de manière chronique avec sa condition. La conséquence de cette perte de réseau? Trop souvent, un ticket direct vers des milieux inadaptés aux besoins de la personne. Hôpital psychiatrique, centre d'hébergement et de soins de longue durée, rue ou prison. Un problème isolé en marge de la société? Au contraire. Plus d'une personne sur deux ayant subi un TCC de modéré à grave présentera au moins un trouble du comportement dans sa vie, un pourcentage qui augmente lors du retour dans les milieux de vie après hospitalisation. De même, plus d'une personne sur deux en situation d'itinérance a subi un ou plusieurs coups à la tête, ce qui nous amène à voir différemment les comportements jugés bizarres que ces personnes peuvent avoir dans la rue. Pour nous, professionnels de la santé, du milieu communautaire et de la recherche œuvrant avec la population vivant avec les séquelles d'un TCC, la solution est simple. Il faut agir en prévention pour soutenir dignement les personnes vivant avec des troubles du comportement et leurs proches, ainsi que réduire les coûts sociaux importants qui découlent de mauvaises prises en charge. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié le 3 juin 2025 de nouvelles orientations ministérielles proposant un modèle qui privilégie la prévention, l'accompagnement et le soutien à long terme des populations vivant avec des troubles du comportement. Ce modèle préventif repose sur plusieurs piliers pour accompagner l'individu et sa famille. Dépister précocement les situations à risque de troubles du comportement. Assurer un accompagnement durant les transitions qui représentent des moments critiques, par exemple la sortie de la réadaptation. Soutenir le réseau social et familial pour éviter l'isolement. Former les intervenants à des approches non répressives et à la gestion de crise. Ces orientations ministérielles soulignent aussi l'importance de renforcer la collaboration entre tous les secteurs concernés, santé, communautaire, justice, itinérance, afin de répondre aux besoins complexes de cette population grâce à des expertises croisées et ainsi d'offrir des actions concertées et des services de qualité. Il reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre ces orientations, malgré le travail colossal qu'ont déjà accompli tous les professionnels du secteur, et ce, dans un contexte de coupes budgétaires et de transition vers Santé Québec. Adapter les milieux de soins, faciliter l'accès aux services déjà disponibles, y compris les logements, financer adéquatement les ressources communautaires qui offrent du soutien à long terme, autant de défis à relever. Mais nous croyons fermement qu'il est essentiel d'investir dans la prévention et dans une offre de services continue, humaine et positive, pour éviter les situations de précarité et améliorer durablement la qualité de vie des personnes vivant des situations de troubles du comportement et de leur entourage. C'était « Investir en prévention pour la prise en charge des troubles du comportement », un texte de Charlotte Hendrick, Geneviève Thibault, Marjolaine Tapin et Carolina Bottari, paru le 12 juillet 2025 dans Le Devoir.
Atteinte de trisomie 21, renvoyée après 15 ans de travail bénévole. Un texte de Thomas-Emmanuel Côté, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. Ils m'ont séparé de ma deuxième famille. Atteinte de trisomie 21, Alix Parisien travaillait, bénévolement, depuis 15 ans à la succursale de Serres de Gatineau. Puis, mardi, on lui a annoncé que c'était la fin. Son gérant l'a informé qu'elle n'aurait plus de car en raison d'une nouvelle logistique de livraison. Une décision que s'expliquent bien mal ses parents, chez qui elle vit toujours, qui trouvent dommage que leur fille de 37 ans perde une occupation stimulante et qu'elle aimait beaucoup. « Quand on est content d'aller à sa job, ça change tout », dit son père, Robert Parisien. « Il faut qu'elle soit accompagnée pendant des semaines pour être formée dans un nouvel emploi. Il faut tout recommencer maintenant », ajoute sa mère, Anne Buisson. Remercier une personne qui travaille bénévolement, sans l'accompagner dans une transition vers autre chose, ce n'est pas acceptable, commente pour sa part Amélie Durand-Lot, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Renaud Bré, qui a racheté De Serres à l'automne 2024, défend cependant sa décision. « Je ne sais pas si on peut vraiment parler de licenciement parce qu'elle était bénévole », dit d'emblée Floriane Claveau, directrice des communications et des partenariats chez Renaud Bré. Madame Claveau explique que le rachat a amené plusieurs changements opérationnels qui faisaient que Madame Parisien, qui ne travaillait qu'une fois par semaine, se retrouvait parfois à ne rien faire. Alix Parisien est très loin d'être la seule personne avec une déficience intellectuelle à avoir travaillé longtemps sans être rémunérée ou en étant sous-payée, comme l'a mis en lumière un récent dossier publié dans La Presse. Dans son cas, ses parents expliquent que les dédales administratifs, notamment au début de son lien d'emploi, ont fait en sorte qu'il était difficile pour elle d'être rémunérée. Entre ne pas travailler ou travailler sans être payé, Madame Parisien et ses parents ont donc choisi le travail. « Nous, ce qui nous convenait, c'était qu'elle puisse travailler, se lever le matin et avoir des collègues. » Un travail qu'elle aime. Peintre née, Alix Parisien voit la vie en couleur. Elle fait ses épiceries par couleur. Elle me dit des fois « Maman, on n'a rien de jaune pour la salade », raconte sa mère. En plus des salades, elle se sert des couleurs pour peindre de jolies toiles, et ce, depuis des années. En 2010, Alix Parisien se trouve un emploi, non rémunéré, au magasin d'art plastique De Serres, à Gatineau, en plein dans sa palette. Elle s'occupe notamment de décharger les camions de livraison et de placer le matériel dans les rayons. Ce qu'elle aimait le mieux ranger? La peinture, évidemment. Rapidement, elle prend goût au travail. Travailler, ça permet de faire comme monsieur et madame tout le monde et d'être inclus dans la société, dit Amélie Durand-Lot. Madame Parisien travaillait 3 jours par semaine avant la pandémie, plus qu'une journée depuis. Elle ne pourrait pas travailler 40 heures par semaine. Je serais trop fatiguée, avoue-t-elle sans gêne. Après ses quarts, de 9 heures à 15 heures, c'était l'heure de la sieste. C'était tellement agréable de travailler avec Alix. Elle ne chialait jamais et c'est très rare qu'elle n'ait pas été souriante, raconte Alain Côté, l'ancien directeur de chez De Serres qui l'avait embauchée à l'époque comme stagiaire. Elle avait de quoi sourire. L'ambiance était bonne au magasin. Ses équipiers venaient voir ses expositions et ses gérants lui donnaient même des conseils pour ses toiles. Le rachat de Deserre par Renaud Bré en octobre 2024 a cependant tout changé. Un gérant a été licencié et d'autres équipiers ont quitté le commerce depuis. « Moi, je vais être la prochaine », avait-elle récemment dit à ses parents. Les conditions n'étaient pas réunies. Pour les parents d'Alix Parisien, les raisons de l'employeur ne sont que des prétextes. Ceux qui sont là actuellement veulent-ils vraiment voir quelqu'un comme Alix? S'interroge Robert Parisien. Il y a un effort humain à intégrer quelqu'un comme Alix. La diversité, ce n'est pas juste des questions ethniques ou LGBTQ+. La diversité, c'est aussi la différence et la déficience intellectuelle, dit Anne Buisson, la mère d'Alix Parisien. Renaud Bré n'a pas de programme pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Les conditions n'étaient pas réunies pour garder convenablement Alix Parisien, dit Mme Claveau. À défaut, il valait mieux s'abstenir que de causer des problèmes. Elle ajoute que Mme Parisien doit être suivie par d'autres employés qui doivent prendre le temps de lui expliquer de nouvelles tâches, et elle n'est pas quelqu'un qu'on peut laisser tout seul. Or, ce n'est pas ce que pense Alain Côté, qui l'avait embauché. Les dernières années où j'étais là, quand j'engageais des nouveaux, c'est souvent Alix qui les formait. Prochaine étape pour Alix Parisien, aller porter des CV. Elle souhaiterait travailler chez Simons, parce que c'est vraiment beau, ou dans une librairie, mais pas chez Renaud Bré. C'était « Atteinte de trisomie 21 », renvoyé après 15 ans de travail bénévole, un texte de Thomas-Emmanuel Côté paru le 13 juillet 2025 dans la presse.
Joël, l'abbé peut enfin vivre sans avoir faim, un texte de Jacinthe Lafrance, paru le 14 juillet 2025 dans La Voix de l'Est. Joël l'abbé aura 60 ans cette année. 60 ans de combat corps à corps avec l'obésité génétique. C'est une bataille qu'il a livrée à main nue. Jusqu'à ce que le spécialiste des maladies métaboliques, Dr. Moshe Tanfus, établisse la nécessité de le traiter pour un rare syndrome d'origine génétique à la source de ses difficultés. Toutefois, ni le test diagnostique pour le syndrome Bardet-Biedl, ni le médicament qui le traite, la 7-mélanotide, connue sous le nom commercial d'Imcivri, ne sont faciles d'accès dans le système québécois de la santé. Le médecin croit que cela aiderait pourtant bien des personnes, comme Joël, aux prises avec un problème dont ils n'auront jamais le contrôle autrement. Même si les cas sont rares, ils méritent d'être traités avec les moyens efficaces qui existent, estime le spécialiste en biologie médicale du système métabolique. Obèse depuis toujours. Toute sa vie, Joël l'abbé a vécu intimement avec l'obésité. Dès la maternelle, il se distinguait des autres enfants par son gabarit imposant, bien qu'il était de grandeur moyenne. Pas juste un peu dodu, mais au point de ne pas oser utiliser le mobilier scolaire, de peur qu'il ne supporte pas son poids. À 5 ans, j'habillais comme un petit gars de 11 ans. Ma mère était obligée de faire les rebords de pantalon, dit-il, en mimant une longueur d'une bonne vingtaine de centimètres qu'elle devait retrancher aux vêtements. Sportif, il s'est exercé au baseball et au football. Dans le premier cas, la seule position convenable à son pas trop lourd s'avérait celle de receveur. J'étais un très bon receveur. J'avais une Moses de bonne garnotte pour la lancer au deuxième. Mais une fois au bâton, à moins d'un circuit, c'était le retrait à coup sûr. Je ne courais pas assez vite, se rappelle-t-il. il se voit contraint d'abandonner. Au football, son poids le condamnait à jouer avec des garçons bien plus vieux. Ça devenait trop dangereux pour l'adolescent de se mesurer à de jeunes adultes formés. Les régimes et le yo-yo. Depuis l'enfance, il s'astreint à des régimes de toutes sortes, influencés par les modes alimentaires en vogue. Chaque fois, c'est un échec. Même pire, puisque le fameux effet yo-yo des diètes fait de lui sa victime de prédilection. Ce n'est qu'au début de la vingtaine, en côtoyant des culturistes et lutteurs professionnels dans le cadre d'un emploi en sécurité, que Joël entreprend le premier régime qui lui procure les résultats escomptés. Mais non sans de sérieux effets délétères. Je travaillais 12 heures par jour, 7 jours par semaine. J'étais le gros de la gang. Le pacifiste aussi. J'ai commencé à faire du gym, 7 jours sur 7, avec une diète de culturiste. Poulet bouilli, poisson au micro-ondes, salade pas de vinaigrette, 4 litres d'eau par jour. Là, je perdais du poids. Joël se donne à fond. 3 heures d'entraînement ciblé chaque jour. La salle d'entraînement qu'il fréquente le prend même comme modèle en publicité tellement sa transformation est spectaculaire. De 190 kilos, il fait descendre l'aiguille du pèse-personne jusqu'à 86 kilos. Mais au bout d'un certain temps, il se retrouve pris de vertige et de perte d'équilibre. Le régime drastique est le coupable, selon le médecin consulté à l'époque. Une telle diète serait nocive au-delà de quelques mois. Joël Labbé la tient depuis plus de 2 ans. Dès qu'il met fin à cette discipline, son poids monte en flèche. Quand ma blonde m'a laissé parce que je prenais du poids, je suis retombée dans l'excès. Maintenant, j'ai compris que je mangeais mes émotions, dit-il. Ce que Joël Labbé ignorait, c'est que ses excès alimentaires, bien réels, n'étaient pas seulement dus à un manque de volonté de sa part. C'est l'un des symptômes du syndrome Bardet-Biedl, à la source de son problème, l'hyperphagie. Cela se traduit par un appétit excessif, avec une tendance à consommer de grandes quantités de nourriture, sans ressentir la sensation d'être plein. Il ne connaît pas la satiété, ne l'a jamais connue en fait, avant d'accéder à la médication qui fait aujourd'hui des miracles pour lui. La nouvelle vie de Joël. Pour comprendre ce qui a amené Joël Labbé dans le bureau du docteur Moshe Tanfous, il faut passer par une rencontre décisive qui l'amène à refaire sa vie à Saint-Tite. Par collègues interposés, l'homme originaire de Laval rencontre la femme de sa vie et, du même coup, un nouveau mode de vie à la campagne. Le préposé aux bénéficiaires, auprès d'enfants polyhandicapés, met prématurément fin à sa carrière en soins à 55 ans pour devenir éleveur dans une fermette de la Mauricie. Avec sa nouvelle conjointe, il espère même fonder une famille sur le tard. Les voilà en clinique de fertilité, où l'un des obstacles à la fécondité du couple est identifié, l'obésité de monsieur. Après quelques années de suivi métabolique visant une perte de poids durable, les résultats demeurent mitigés. Les médicaments classiques visant à réguler l'appétit, Ozempic, Wegovy et Mounjaro, ont un effet initial qui atteint vite un plateau. La procréation assistée ne fait plus partie des projets du couple qui est aujourd'hui marié. Mais Joël Labbé désire quand même améliorer sa santé globale. Bien qu'admissible à la chirurgie bariatrique, M. Labbé a des réticences. Il a vu trop d'amis la regretter pour diverses raisons. D'après son médecin, il fallait avant toute chose régler le problème d'hyperphagie de son patient, sans quoi l'opération était vouée à l'échec, avance ce dernier. Obésité métabolique héréditaire. En tant que partenaire de la clinique de fertilité, le métabolicien croise de nombreux cas où l'obésité et l'infertilité s'additionnent. Pour le Dr Moshen Tanfus, c'est souvent l'indice d'une obésité d'origine génétique. C'est en allant chercher une spécialisation à l'American World of Obesity Medicine en 2024 que le médecin se familiarise avec le syndrome de Bardet-Biedl et son traitement pharmaceutique. Celui-ci n'est d'ailleurs autorisé au Canada que depuis 2023. Mais pour obtenir un diagnostic, les échantillons prélevés chez Joël Labbé doivent être analysés dans un laboratoire privé aux États-Unis, aux frais du patient. Les résultats sont alors formels, même s'ils ne présentent que certains symptômes, dont, le plus marqué chez lui, l'hyperphagie. Dans l'enseignement, il présente des cas typiques, avec tous les symptômes. Nous, à la clinique, ce qu'on voit dans notre quotidien, c'est des « all shades of grey ». Ils ne correspondent pas tous aux cas qu'on trouve dans les manuels. Je n'ai plus faim. Alors qu'il portait 190 kilos sur son dos en entrant pour la première fois dans le bureau de son médecin spécialiste, Joël Labbé a connu une perte de poids spectaculaire de 70 kilos. Il a gagné en mobilité et en qualité de vie. Et il se fait à l'idée d'une chirurgie bariatrique pour bientôt. Parmi les effets secondaires avec lesquels il a dû apprendre à composer, l'hyperpigmentation de la peau lui donne un teint tellement foncé qu'on le croit parfois d'origine cubaine. Mais c'est un détail. Surtout, dit-il, je n'ai plus faim. Cette faim insatiable qu'il n'arrivait pas à maîtriser pendant toutes ces années a fait place à de nouvelles sensations. Enfin, il peut manger lentement, 3 repas par jour, dans des portions raisonnables, sans se faire déjouer par l'hérédité. Grâce aux assurances collectives de sa conjointe, Joël Labbé a réussi à obtenir le remboursement partiel de son traitement, livré par injection sous-cutanée, qui revient à 30 000 $ par mois. Une fondation lui permet de pallier certains frais du matériel liés aux injections. Mais pour tous les autres patients atteints de certaines formes d'obésité génétique, le Dr Moshen Tanfus croit que le ministère de la Santé du Québec doit modifier son approche. Cette classe de médicaments devrait être couverte par le régime public. Ce serait, selon lui, particulièrement important pour les enfants qui souffrent d'obésité génétique et dont le parcours scolaire pourrait en être affecté. Et comme l'obésité génétique se présente souvent à un jeune âge, c'est toute une vie qui pourrait en être transformée. Si on les traite tôt, il y a une chance qu'ils aient une meilleure scolarité et qu'ils ne décrochent pas, dit-il. Si le montant du traitement peut sembler exorbitant, le médecin assure que ce n'est pas une somme inhabituelle pour le traitement de maladies rares ou orphelines, comme on les appelle. « Ça ne s'offre pas à tout le monde », prévient-il toutefois au sujet de l'acétmélanotide, qui n'agit que pour des personnes présentant un profil bien précis. Selon lui, c'est au médecin traitant de déterminer que la piste génétique est à considérer. Ce n'est pas tout le monde qui est candidat pour le test génétique, insiste-t-il. Mais pour certains, ça peut changer une vie. C'était Joël Labbé peut enfin vivre sans avoir faim, un texte de Jacinthe Lafrance, paru le 14 juillet 2025 dans La Voix de l'Est.
Retour des mines antipersonnelles, s'alarme Handicap International. Un texte de l'agence France Presse paru le 8 juillet 2025 dans la presse. L'ONG Handicap International s'alarme d'un retour inquiétant des mines antipersonnelles, notamment en Europe, où 6 pays limitrophes de la Russie se sont ou vont se retirer du traité international interdisant ces armes qui tuent et mutilent de plus en plus depuis 2015. En juin, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont notifié l'ONU qu'elles quittaient la Convention d'Ottawa ou traité sur l'interdiction des mines antipersonnelles, ratifié depuis 1997 par 165 États. Puis la Pologne et la Finlande ont annoncé une procédure de retrait et l'Ukraine a officiellement engagé sa sortie le 29 juin. Tout en signifiant qu'ils agissaient ainsi pour renforcer leur défense face à la Russie qui n'a jamais adhéré au traité. Handicap International, HI, tire la sonnette d'alarme, redoutant un moment de bascule très inquiétant, parce que ces pays envisagent désormais de déployer ces mines à leurs frontières, dit l'organisme dans un récent communiqué. La Russie a massivement utilisé les mines antipersonnelles depuis son invasion totale de l'Ukraine en 2022, tandis que des informations indiquent que l'Ukraine en a également fait usage, écrit l'ONG, membre de la campagne internationale pour interdire les mines, ICBL, lauréate du prix Nobel de la paix en 1997. L'Observatoire des mines a relevé une hausse du nombre de victimes annuelles depuis 2015 dans le monde, rappelle-t-elle. Chaque année, les enfants représentent entre 40 et 50% des victimes civiles de ces mines, illégales au regard du droit humanitaire international parce que incapables de faire la distinction entre un militaire et un civil. Elles sont déclenchées par les victimes elles-mêmes, peuvent rester actives pendant des dizaines d'années et en laissant des traces durables sur les corps et les mémoires, condamne à la peur des populations pendant plusieurs générations, selon HI. L'ONG basée à Lyon, dans le sud-est de la France, spécialisée notamment dans le déminage et la fourniture de prothèses, appelle les populations à montrer leur indignation, notamment en France le 26 septembre, pour le 30e anniversaire des pyramides des chaussures, une manifestation de HI durant laquelle les gens sont appelés à empiler des chaussures en symbole de solidarité aux victimes mutilées. C'était « Retour des mines antipersonnelles », s'alarme Handicap International. Un texte de l'agence France Presse paru le 8 juillet 2025 dans la presse.